séchait Guitry.
Ce n'est pas sans raison que les Anglais disent d'un homme qu'il a ou qu'il n'a pas a sense of humour. Car c'est également un sens. Et c'est parce que la plupart des gens s'en trouvent dépourvus qu'il est si mal considéré. Il est vrai d'ajouter que si tout un chacun possédait le sens de l'humour, l'humour en souffrirait. Car pour qu'une plaisanterie humoristique ait son plein rendement, il convient d'être trois.
Ça peut pas faire de mal.
Celui qui la profère, celui qui la comprend et celui à qui elle échappe. Le plaisir de celui qui la goûte étant décuplé par l'incompréhension de la tierce personne. Vous connaissez, n'est-ce pas, le sourire douloureux, l'œil inquiet des gens qui vous écoutent en se disant « Mon Dieu, pourvu que je comprenne ».
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Et tout à coup j'ai peur affreusement de la première phrase que vous allez prononcer. C'est vrai, vos lèvres vont s'ouvrir et quelques mots vont sortir comme ça, tac, 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 qui vont peut-être briser net à jamais. Trois semaines d'espoir échafaudé. Oh non, pas encore, oh, pas encore, oh, ne répondez pas encore, oh mon Dieu, oh non, je ne vous ai dit encore que des choses vagues. Oh, c'est affreux en ce moment, j'ai l'impression que je m'enlise. Oh, vous savez, j'aimerais mieux une paire de claques qu'un mot trop méchant.
Je jouis d'une prestance physique qui porte sur les nerfs à la plupart des gens. Ma démarche, mes gestes et plus encore ma voix contribuent à me faire aimer par les uns et me faire détester par les autres. Car je suis détesté par beaucoup de personnes. Et je m'en rends bien compte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai jamais été satisfait de mon physique. Je trouve excessif. À 20 ans, je me trouvais trop gros, mais je ne faisais rien pour maigrir. Plus tard, je me suis trouvé quelconque. Et j'ai toujours évité de me regarder dans les glaces, hormis pour me maquiller pour la scène, bien entendu. Et là, précisément, bien heureux de pouvoir me corriger un peu. D'ailleurs, en vérité, je n'aime pas qu'on me regarde, alors que j'ai passé ma vie à me montrer. Même au théâtre, j'ai l'espoir qu'on m'écoute, mais en regardant mes partenaires.
Mon Dieu, qu'est-ce que je fais en parlant? Qu'est-ce qu'elle va me répondre avec ses yeux-là, avec ce sourire-là? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Oh, ça ne fait rien, tant pis, allez-y maintenant, allez, dites, allez.
Quand je me suis vu à l'écran, j'ai tout de suite compris pourquoi j'étais antipathique à tant de gens. J'ai je ne sais quoi de péremptoire, propre à me rendre assez odieux. Mes traits sont empâtés, mon regard est imprécis. Je n'ai rien qui soit apparemment spirituel, et à n'en pas douter, j'étais fait pour jouer les grands premiers rôles de drame. Je ne dis pas pour les jouer bien, mais pour les jouer certainement. Je l'ai fait quelquefois, jamais avec plaisir, hanté par la pensée que j'imitais mon père. On ne me pardonne pas d'être le fils d'un homme incomparable, auquel il faut pourtant, bon gré mal gré, qu'on me compare, car je le renouvelle et le continue, le talent mis à part. Même physique et même voix, et même façon d'être, héréditaire aussi. Même orgueil apparent, même dédain railleur des règles établies, même insolence quand il faut, même liberté conquise et conservé. Mais deux Guitry, c'est beaucoup. Pour les rater, c'est trop. C'est encombrant. Et ça n'en finit plus. Voilà pourquoi je suis de ces hommes à qui l'on ne pardonne rien. Tel est l'autoportrait plein d'humour que signe l'un des plus grands artistes dramatiques de la première moitié du XXe siècle, Sacha Guitry, qui fut à la fois comédien, auteur de théâtre et immense cinéaste. Fils du tragédien, non moins immense, Lucien Guitry, qui fut le partenaire entre autres de Sarah Bernhardt, Sacha Guitry sut très vite se faire un prénom grâce à un talent inimitable de vaudevilliste qui fait de lui l'héritier de Feydeau. De ses débuts au théâtre, à 3 ans en tant qu'acteur, à 17 ans en tant qu'auteur, jusqu'à son dernier film, Les Trois font la paire, en 1957, l'année de sa mort, Sacha Guitry signe donc, met en scène et interprète pas moins de 124 pièces et 36 films, dont la moitié sont des adaptations de ses succès au théâtre. Faisons un rêve, Mon père avait raison, Quadrille. Sur scène comme à l'écran, Guitry révèle de grands talents. Rému, Michel Simon, Louis de Funès, mais aussi Gaby Morlaix, Arletty, Michel Morgan et Pauline Carton. Personnage controversé, on lui reproche de faire du théâtre filmé et du cinéma vieille France. En 1945, il est soupçonné de collaboration, puis acquitté. Mais entre les deux, quand même, emprisonné à Drancy. Comment celui qui a toujours refusé de jouer en Allemagne a-t-il pu fréquenter les Allemands pendant l'occupation ? On sait qu'il obtint ainsi la libération de prisonniers. Sur le plan personnel, on lui reproche son dandysme et son donjuanisme teinté de misogynie. Lui qui fut marié 5 fois, on lui doit de célèbres aphorismes sur les femmes. On les a dans ses bras, puis un jour sur les bras et bientôt sur le dos. Voilà pour la complexité du personnage qui n'en finit pas de fasciner son public. Mais ce soir, pour cette première émission de l'année 2013, place à la légèreté et à la comédie de mœurs. Découvrons quelques-unes des pages les plus savoureuses de ce maître du marivaudage moderne, en compagnie d'une délicieuse comédienne et précieuse amie, Françoise Lépine. Bonsoir.
Bonsoir Guillaume, merci.
Commençons par son premier succès au théâtre, extrait de Nono, pièce écrite en 1905. À 20 ans, Sacha Guitry révèle son talent pour la comédie de boulevard. Jules Renard écrira dans son journal « C'est du Guitry accouchant de lui-même. De la jeunesse, de l'esprit et jamais bête. Nous étions tous ravis et frappés. Sacha aura d'étonnants succès. » Dans ses mémoires, Guitry se souvient du soir de la première. « Jules Renard me regardait comme quelqu'un qui n'en revient pas. » Ce qui me laissait supposer qu'il m'avait jusqu'alors considéré comme un crétin. Et l'auteur, de poursuivre, si la réussite de Nono étonna bien des gens, celui qu'elle étonna le plus, c'est encore moi. La preuve en est qu'après 30 ans, je n'ai jamais osé la publier, estimant qu'au départ, j'avais peut-être bénéficié d'une erreur. Voici donc un extrait de cette pièce qui a plu par l'audace et l'immoralité de son sujet, comment voler la maîtresse de son meilleur ami. Nous sommes à l'acte 1, dans une salle de restaurant.
Monsieur Robert Chapelle ?
Oui, madame, c'est moi.
Nous devons souper ensemble, monsieur. Il est donc inutile de reculer une présentation inévitable. Antoinette Berger.
Antoinette Berger ?
Oui.
On m'avait dit...
Nono ?
Oui, c'est ça, Nono.
En effet, tout le monde m'appelle Nono.
Pas moi.
Ça viendra, je l'espère. Jacques m'a dit que vous étiez son meilleur ami. Une rapide intimité s'impose.
Alors, bonjour Nono. Bonjour mademoiselle, tout à fait heureux de vous connaître.
Bonjour, merci.
Est-ce que vous désirez conserver ce manteau ?
Non, pas du tout.
Je crois être en effet le meilleur ami de Jacques. En tout cas, je suis le plus ancien. J'ai 15 ans de plus que lui.
Vous avez 35 ans ?
Oui.
Oh, c'est épatant.
J'en parais 43.
Oh non.
46.
Oh non, pas du tout.
Oh, que vous avez un gentil regard.
C'est vrai ?
Oui, vous venez d'avoir une expression charmante.
Et moi ?
Vous ?
Me donneriez-vous 25 ans ?
Si j'avais 25 ans, je les garderais pour moi.
Non, sans blague, quel âge me donnez-vous ?
C'est très délicat. Si on dit plus, on est grossier. Si on dit moins, on a l'air de ne pas s'y connaître.
Vous n'êtes pas gentil. Pouvez-vous me dire l'heure, au moins ?
Ça, oui, je ne risque pas de vous vexer en vous disant qu'il est minuit 20. Tiens, mais comment se fait-il que Jacques ne soit pas là ?
Jacques est allé à un match de boxe. Jacques me parlait tout le temps de vous, j'avais envie de vous connaître. Et c'est moi qui l'ai prié de vous inviter ce soir à souper.
Ah, Jacques vous parlait de moi ? Et que vous disait-il ?
Vous rougissez.
Moi, je rougis ? Ça m'étonnerait bien. Voyons un peu si vous êtes bien renseigné. Que savez-vous de moi ?
Je sais que vous avez connu Jacques à l'âge de 5 ans. Et que vous étiez assez lié à son père.
Après ?
Je sais que vous vivez loin du bruit et des plaisirs.
Après ?
Avec une vieille maîtresse qui vous rase.
Ce n'est pas tout à fait exact. D'abord, je ne vis pas avec elle. J'ai un chez moi. Et puis, elle n'est pas vieille.
Elle a 46 ans.
43.
Eh bien, ce n'est pas vieux, 43 ans ?
Mais non, vous verrez, ce n'est pas vieux, 43 ans.
Ah, je vous demande pardon. Je croyais qu'elle vous rasait beaucoup plus que ça.
Vous êtes gentil, mais... Vous aviez envie d'ajouter quelque chose. Vous avez imité le poisson qui manque d'air.
Vous l'aimez encore ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Ça m'amuse. Mais vous êtes triste.
Moi ? Jamais de la vie.
Si, je vous ai fait de la peine.
Oh, quelle prétention ! Voulez-vous bien vous taire ? Et vous, êtes-vous heureuse ?
Moi, oui.
Vous aimez bien Jacques ?
C'est un bon gosse, il est gai, il est heureux. Il aime bien faire la fête. Oh oui, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Et lui ?
Il dit qu'il m'adore.
Il le fait ?
Oui.
Je le comprends. Et puis, il aime bien faire la fête. Voilà le principal.
Ça a son importance.
C'est donc si amusant de faire la fête ?
Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ?
Évidemment, avec des yeux comme ça. Vous me faites la grimace ?
Ça m'embête de vous avoir fait de la peine tout à l'heure.
Encore ? Mais vous ne m'avez fait aucune peine, petite bonne femme.
Ah, on m'appelle au téléphone. Ça doit être Jacques, j'y vais.
Ah, voilà ce qu'il me faudrait. C'est charmant. Elle est délicieuse. Et l'autre, qui est toute seule et qui pleure. Quelle joie si elle me voyait arriver. J'ai envie de rentrer, ça lui ferait tant plaisir. Bon, ça vaut mieux. Si encore cet enfant n'était pas la maîtresse de Jacques.
Où allez-vous ? Où vous en allez ?
Vous allez me pardonner ? Je suis fatigué, je rentre. J'ai une migraine abominable.
Vous vous ennuyez ?
Je ne vous réponds même pas. Allons, au revoir.
Alors, vous allez la retrouver ?
Non, je rentre chez moi.
Menteur.
Parole ? Au revoir.
Restez, attendez Jacques. Il voulait savoir si vous étiez là, il arrive.
Mais comprenez donc, il vaut mieux que je m'en aille.
Vous me flattez.
Ne me retenez pas.
Au revoir, vous l'aurez voulu.
Vous seriez contente si je restais ?
Oui.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Encore ?
Encore quoi ?
Encore ce regard. Ah, vous me plaisez trop, et trop vite. Regardez-moi bien en face. Êtes-vous vraiment heureuse ?
Mais oui, très heureuse.
Vous êtes satisfaite de la vie que vous menez ?
Mais oui, quelle drôle de question. Mon existence...
M'effraie.
Mon existence vous effraie ?
Oui.
Pourquoi ?
Il y a tant de choses que vous ignorez et que vous risquez d'ignorer toujours.
Quelles choses ?
Tout, presque tout.
Tout ? Ce n'est pas une réponse. Dites-en une pour voir.
Oh, je ne sais pas... Ah, eh bien, je vais en dire une, au hasard. Connaissez-vous Madame Bovary ? Dites-le franchement, il n'y a pas de honte à ça.
Madame Bovary, il me semble... Est-ce que ce n'est pas cette grosse blonde qui est toujours...
Non.
Ah ?
C'est un livre. J'ai eu tort de vous demander ça, quelle folie. Évidemment, c'est à crever de rire.
Oh, ça, je n'ai pas le temps de lire, je l'avoue. Je passe mes nuits en chemise de jour et mes jours en chemise de nuit.
Quel dommage.
Mais non, à chacun son genre. Tout le monde ne peut pas être pareil. Moi, j'aime la fête, ça ne fait de mal à personne. Au contraire, je suis jolie. J'en fais profiter les autres.
Ah, les vénards.
Il paraît.
Ah, vous, si vous n'étiez pas la maîtresse de Jacques.
Vous me lèveriez ?
Non, je vous coucherais.
Est-ce un compliment personnel ou un hommage rendu aux femmes, en général ?
C'est un compliment personnel.
Je vous plais ?
Beaucoup plus que vous ne pouvez le penser. Oh, en ce moment même...
Jacques, viens vite !
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Poursuivons avec quelques aphorismes de Sacha Guitry sur la relation père-fils.
N'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours un fils.
Quel dommage que vous n'ayez pas un fils. À cette phrase, à ce regret que l'on m'a si souvent exprimé, je réponds aujourd'hui, ça aurait fait trois Guitry, j'ai eu pitié pour mes confrères.
Ce qui dès l'abord caractérisait le jeu de Lucien Guitry, c'était la sobriété. Mais ce serait une erreur de croire que cette sobriété, qui donna le ton à la génération d'acteurs qui devait lui succéder, fut à ses débuts goûtée, appréciée comme elle le méritait. Sarcey, qui fut un gros critique bien plus qu'un grand critique, sortant de la première d'Amant, ayant vu jouer la comédie non pas mieux, mais comme jamais sans doute elle n'avait encore été jouée, dit simplement que Guitry fut parfait de tenue et de diction dans le rôle de Georges Vétheuil. Au vrai, ces quelques mots laissent à supposer que Sarcey n'approuvait guère cette discrétion, cette retenue qu'il nomme de la tenue. Ce qui était remarquable, ce n'était pas la tenue de Lucien Guitry dans Amant, c'était cette sincérité réelle, contenue, cette simplicité, ce tact, ce qui était remarquable et digne d'un autre éloge, c'était enfin cette rupture avec tout romantisme, toute affectation, tout chiqué, disons le mot.
Extrait de Mon père avait raison, créé en 1919. En 1905, le jeune Sacha, comédien débutant, accumule les déboires. Tantôt il arrive en retard à une représentation, tantôt il se colle la tête au décor et se prend les pieds dans le tapis, au grand dam de son père, Lucien Guitry, qui finit par le renvoyer du théâtre. Dans ses mémoires, Sacha Guitry raconte « J'ai ri comme un fou. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, mais j'étais bien sûr que je ne deviendrais jamais comédien. Je me sentais délivré d'un immense souci. Je n'allais plus avoir cette crainte constante de ternir l'éclat du nom que je portais. Sacha s'enfuit alors avec sa fiancée Charlotte Lizès, l'ex-maîtresse de son père. Il crée Nono quelques mois plus tard. La rupture entre Sacha et Lucien Guitry est consommée. Elle durera 13 ans. En 1919, ils se réconcilient enfin et jouent ensemble dans « Mon père avait raison », une comédie tendre sur la relation père-fils. En 1936, lorsqu'il adapte sa pièce pour le cinéma, Sacha reprendra avec émotion le rôle de son père. Mais pour l'heure, Sacha a quitté Charlotte Lizès pour Yvonne Printemps. La jeune cantatrice incarne Loulou, jeune maîtresse du fils venue jouer les entremetteuses auprès du père, qui attend lui-même une visite de son ex-femme. Voici ce ravissant quiproquo de l'acte 2.
Faut-il que j'aie un toupet tout de même? J'ai le cœur qui me bat. Oh, j'ai bien envie de m'en aller. Oui, ce que je fais là est fou, je vais m'en aller. Trop tard. C'est lui sûrement. Ah oui. Monsieur, je vous demande pardon de venir comme ça chez vous.
Mais qui êtes-vous, mademoiselle?
Monsieur, je suis Loulou.
Comment? Loulou?
Oui. Je pourrais vous mentir, je pourrais vous dire que je suis une amie de Loulou. Mais non, et j'aime mille fois mieux vous dire la vérité. Loulou, c'est moi. Oh, je me rends parfaitement compte de mon incorrection, mais je suis sûre que vous me pardonnerez quand vous saurez pourquoi je viens chez vous. Voulez-vous me permettre de vous le dire?
Mais je vous en supplie.
Mais je vous dérange peut-être.
Non, mais il se peut que d'une minute à l'autre, je sois obligée.
J'ai compris, je vais aller très vite. Voilà, monsieur, il paraît que mon rêve, le rêve de toute ma vie, est impossible à cause de vous.
À cause de moi?
Oui. Et écoutez, je le croyais vraiment, j'en étais persuadée il y a une minute encore, mais depuis que je vous vois, depuis que je vous parle, depuis que je vous regarde, je ne peux plus le croire. Ah non, monsieur, je ne peux pas croire qu'avec ces yeux-là, vous soyez méchant. Oh, bien sûr, vous n'avez pas l'air d'un homme qui se laisse mener par le bout du nez, et en cela, vous avez rudement raison. Permettez-moi de vous le dire, les hommes qui n'ont pas de volonté, qui sont comme des chiffres, qui ne savent jamais ce qu'ils veulent, je les méprise. C'est bien simple. Pour moi, un homme doit avoir ce qu'il veut, de même qu'il doit être grand.
Et fort.
Oui. Vous avez beau me regarder en souriant, malheureusement, je ne sais plus très bien où j'en suis, c'est que je suis très émue, voyez-vous, monsieur. Et il y a de quoi. D'abord, quand on parle comme ça, pour ne rien dire, à tort et à travers, c'est qu'on est très ému. Et je me rends compte que je dois vous produire une drôle d'impression, n'est-ce pas? Quelle impression est-ce que je vous fais, monsieur?
Écoutez, mademoiselle, franchement, vous me faites l'impression d'une petite personne loyale, décidée, et qui s'est trompée de porte.
Ah?
Oui. À qui croyez-vous parler, mademoiselle?
À son père.
À son père?
Oui. Vous n'êtes pas son père?
Le père de qui?
De Maurice.
Si, mon fils s'appelle Maurice.
Alors je ne me suis pas trompée. Vous m'avez fait peur. D'ailleurs, vous vous ressemblez assez tous les deux pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible.
Et c'est au sujet de Maurice que...
Oui, je suis sa petite amie.
Ah!
Oui, vous ne le saviez pas?
Mais non, mademoiselle.
Mais alors, qu'est-ce qu'il m'a raconté?
Je n'en sais rien.
Voyons, voyons, voyons. Il m'a dit que vous aviez eu une grande conversation tous les deux à propos de moi.
Je ne m'en souviens pas.
Oh, ce qu'il est menteur! Eh bien, tant pis. Moi, je vais vous dire exactement la vérité. D'abord, parce que je ne sais pas mentir. La vérité, la voilà, toute simple. J'étais dans la couture, j'ai rencontré Maurice, et depuis 2 mois...
Vous n'allez plus à l'atelier.
Voilà. C'est simple.
Et c'est tellement naturel.
N'est-ce pas? Il m'a loué un petit appartement meublé. Je vous dirai pas que c'est les Tuileries, mais c'est tout ce que je pouvais désirer. Et la cuisine est très claire, ce qui est rare dans les appartements au-dessous de 3000.
À qui le dites-vous?
Bon, donc me voilà installée, et vu de loin comme ça, il faut avouer que ma petite existence fait tout à fait la blague du bonheur. Seulement, où ça se gâte, monsieur, c'est quand on pense que Maurice, qui vient déjeuner avec moi tous les matins, ne veut jamais rester ni pour dîner ni pour coucher.
Ah ?
Jamais. Et chaque fois que je lui demande pourquoi il me laisse comme ça, savez-vous ce qu'il me répond ?
Non.
Eh bien, il me répond, mon père ne veut pas rester seul le soir.
Non.
Si. D'abord, je l'ai cru, et je me suis inclinée sans rien dire. Mais bientôt, j'ai fini par deviner ce qui était la vraie vérité. Et la vraie vérité, c'est que c'est lui qui ne veut pas que vous restiez seul. Ce en quoi je le comprends parfaitement. Et c'est parce que je le comprends que je suis venue. Maurice a raison, il ne faut pas que vous soyez seul. Alors attendez, voilà l'idée qui m'est venue. Vous allez peut-être la trouver folle, mon idée, mais moi... Moi qui voudrais le bonheur de tout le monde, je crois qu'elle est très bien. Parce que je sais ce que je vous propose, vous comprenez ?
Oui.
Seulement, voilà, je suis un peu gênée pour vous la dire maintenant, mon idée, parce que vous n'êtes pas du tout comme je m'attendais, je vous voyais...
Comment me voyez-vous ?
Ben, je vous voyais tout rouge avec une barbe en pointe.
Ça ne fait rien. Dites-moi tout de même votre idée, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous me proposez.
Bon, eh bien la voilà mon idée. Que pensez-vous de cette photographie ?
Qu'est-ce que c'est que cette nymphe ?
Ce n'est pas une nymphe, c'est une petite amie à moi qui cherche quelqu'un.
Ah !
Oui. Alors écoutez, voilà, elle est dans la couture aussi. Seulement, nous n'avons pas les mêmes idées. Elle, elle veut mal tourner. Moi, je n'aurais pas voulu. Moi, j'ai voulu quelqu'un de sérieux. Chacun son goût. Remarquez que je la critiquerais, ça ne changerait rien. Vous savez comment c'est fait une femme.
Vous pensez bien que je ne suis pas arrivée à mon âge sans...
Non, je voulais dire...
Oui, j'ai compris.
Donc il faut lui laisser faire ce qu'elle veut. Et puis elle veut quelqu'un de sérieux, j'ai pensé qu'avec vous ce serait le rêve. À elle, ça lui donnerait la tranquillité, et à vous, ça vous donnerait une petite compagnie, n'est-ce pas ? Alors comment la trouvez-vous ?
Vous, je vous trouve charmante. Et elle, mon Dieu, je la trouve délicieuse.
Et puis, elle est sage.
Ouais, elle a l'air très sage, en effet.
Non, je veux dire qu'elle est encore sage.
Ah !
Oui. Je ne savais pas si vous préféreriez ça ou non. Mais en tout cas, c'est comme ça, tant pis. Dans le fond, ce n'est pas bien grave, remarquez, puisque, enfin, ce n'est que momentané.
C'est l'affaire d'un instant.
Et puis, alors, elle s'appelle Henriette.
Ah.
Oui, là, évidemment, elle a tort, je lui ai dit. Mais pour ça, elle est entêtée. N'est-ce pas qu'elle a tort ?
De quoi ?
De vouloir garder son nom d'Henriette. Je trouve qu'on n'est pas du tout à ce nom-là en ce moment. Ce matin encore, je l'ai supplié d'en trouver un autre, elle n'a pas voulu. Mais je suis bien certaine que si vous le lui demandez, vous, elle vous écoutera.
Mais entre nous, ne trouvez-vous pas qu'il y a entre cet enfant et moi une différence d'âge peut-être un peu grande ?
Bah oui, seulement, je pense que l'idée ne vous viendrait pas d'en prendre une qui serait du même âge que vous.
Ah, non.
Alors, puisque de toute façon vous en prendrez une qui sera moins âgée que vous... Il vaut peut-être mieux en prendre carrément une qui soit jeune.
C'est très juste.
D'autant plus que, si c'est pour la question fidélité que vous dites ça, il me semble que vous avez bien plus intérêt à en prendre une toute fraîche, toute nouvelle, parce qu'elle ne saura pas la différence qu'il y a.
Oui, 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 tout ça est puissamment raisonné. Mon fils a bien de la chance de vous avoir rencontré, mademoiselle.
Oh, est-ce que vous êtes gentil, monsieur ?
Gentil ? Mais ce n'est pas tout, il va falloir que je plaise à Henriette maintenant. C'est toute une affaire. Vous croyez que je peux plaire à Henriette ?
Oui. Seulement ne lui faites pas peur.
Peur ? Avec quoi voulez-vous que je lui fasse peur ?
Avec vos yeux.
Mes yeux ? Qu'est-ce qu'ils sont mes yeux ? C'est que je n'en ai pas d'autres.
Oh, ne me prenez pas l'air moqueur. Je suis sûre qu'elle vous plaira et que vous l'aimerez.
Oui, mais... Si je la trompe...
Alors c'est elle qui vous aimera.
Ah. Que tout cela ait puissamment résonné.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis devenue folle, vraiment. Voilà ce qu'il faut que vous vous disiez.
De quoi me parlez-vous ?
De mon départ.
Oh, c'est pas vrai.
Mais si.
Oh, voyons, après 20 années d'absence, vous comptez reprendre la conversation où elle en était restée ?
Oui.
Oh, vous me parlez de votre départ ?
Oui.
Enfin, vous croyez donc que je suis encore, que je suis toujours l'homme que vous avez quitté, voyons, regardez-moi.
Je vous retrouve.
Oui, en me regardant bien, mais m'auriez-vous reconnu si vous m'aviez rencontré par hasard ?
Mais
non, je ne crois pas.
Vous, non ?
Si moi, je vous aurais reconnu, ah non.
Non ?
Bon, vous êtes extraordinaire.
Quoi, j'ai beaucoup changé ?
Mais comme moi.
Quelques aphorismes de Sacha Guitry sur les femmes.
C'est entre 30 et 31 ans que les femmes vivent les 10 meilleures années de leur vie.
Il faudrait aimer les femmes comme on aime une édition originale, avec ses fautes.
Elle bâillait devant moi, je lui ai dit bye bye.
Le sommeil était de beaucoup ce qu'elle avait de plus profond. Et sur l'amour.
Il y a devant l'amour trois sortes de femmes. Celles qu'on épouse, celles qu'on aime et celles qu'on paie. Ça peut très bien être la même. On commence par la payer, on se met à l'aimer, puis on finit par l'épouser.
Un seul amour fidèle, c'est l'amour propre.
Allô ? Allô ?
Extrait de Faisons un rêve, écrit en 1916. C'est l'une des pièces les plus populaires de Sacha Guitry, qu'il a créé plusieurs fois au théâtre et adapté au cinéma, en confiant successivement le rôle principal à trois de ses cinq épouses. Charlotte Lisès en premier, Yvonne Printemps en second et la délicieuse Jacqueline de Lubac. Enfin, c'est avec elle d'ailleurs qu'il fera le film, toujours avec Rému dans le rôle du mari trompé. Audacieux, le jeune Sacha Guitry bouscule les règles de la comédie de mœurs en écrivant un long monologue qui constitue l'ensemble de l'acte 2 et dans lequel on peut voir l'invention du one-man show. Il y introduit un personnage inédit qui fera carrière dans le marivaudage contemporain, le téléphone. À propos duquel d'ailleurs Guitry disait « Quand une femme qui me plaît me fait demander au téléphone, je me donne vite un coup de peigne ». Voici le début de ce texte savoureux. Émile, vous pouvez aller au cinéma, je n'ai plus besoin de vous. Demain matin, réveillez-moi à 11h30. Ne me réveillez donc pas d'ailleurs. Je suis bien assez grand pour me réveiller tout seul. Et maintenant, l'œil du maître qui se méfie de l'œil de sa maîtresse. Ah, c'est qu'elle voit si bien les femmes, en une seconde, la chose qu'on n'aurait pas dû laisser traîner. Il n'y a qu'une photo, elle est de moi, elle ne peut rien dire. Oh, 9h05, elle part de chez elle. Si elle tient sa promesse, et elle va la tenir, j'en suis sûr, elle sera ici dans pas tout à fait 5 minutes. Elle descend. Oh, que j'ai bien fait de parler aujourd'hui, moi, de lui dire que je l'aimais. C'était le jour, c'était l'heure, c'était juste. Ah, dame, on sent bien les choses. La voilà qui sort de chez elle, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, traverse le trottoir, appelle un taxi. Psst, taxi, 25 avenue de Messine. Bien, madame, elle tourne au coin de l'avenue de l'Alma. Je la vois dans le fond du taxi, elle tremble tellement à la peur. Elle traverse les Champs-Élysées, prend la rue Washington. La rue Washington représente à peu près 2 minutes. J'ai donc le temps d'éteindre là et d'allumer la petite lampe qui est ici. Ça doit être mieux comme ça. Ah oui, sûrement c'est mieux, c'est beaucoup mieux ainsi. La lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. Elle est toujours rue Washington, voilà une rue qui est longue, pourvu qu'elle ne prenne pas froid dans le taxi. Ah ça, si elle chipe un rhume, je suis fichu. Elle sera d'une humeur épouvantable. Et ça sera ma faute. Je pense que ça doit être assommant de faire l'amour avec une femme qui a un rhume. On lui dit « je t'aime » et elle vous répond « bois, je t'adore ». Ah, la voilà enfin qui tourne le coin de la rue Washington. Elle prend le boulevard Haussmann. « Prends-le, mon amour, il est à toi. Tiens, je te le donne, le boulevard Haussmann. Prends-le et descends-le. Fais attention au tramway, toi, idiot. Ne me l'abîme pas, surtout. » Bon, continue. Ah, Shakespeare, statue de Shakespeare, elle tourne autour de Shakespeare. Ne soyons pas étonnés si demain Shakespeare a la tête à l'envers. Elle prend l'avenue de Messine, elle monte l'avenue de Messine. Allez, monte encore. Mais non, pas au 23, au 25. C'est ça, descends mon amour, je t'ouvre la portière, descends. Paye. Ah, ça, il faut payer, rien à faire. Donne-lui un bon pourboire. Voilà, parfait. Traverse le trottoir. Mais non, on te regarde pas, ma chérie. À cette heure-ci, qui veux-tu qu'il te regarde? Sonne à la porte d'entrée. Impatiente-toi. Prends l'ascenseur. Non, tu préfères monter à pied? Les 21 marches qui nous séparent. Oh, ça ira aussi vite, tu as bien raison. Vas-y. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sonne. Allez, va, sonne. Mais sonne. Ah, elle se met de la poudre peut-être. Ah, assez de poudre. Allez, sonne. Mais sonne donc. Mais qu'est-ce qu'elle peut foutre, nom de Dieu? Ah, la voilà. Ah, j'étais sûr qu'elle viendrait. Voilà, j'arrive. Ah non, mon valet de chambre. Ça y est, le pneumatique. Le sale petit pneu, implacable, fatal. 12 lignes d'excuses qui ne disent rien. Ou un seul mot, impossible, qui dit tout. Ah, et dire que j'étais sûr qu'elle viendrait. Faut-il être bête, mon Dieu? Alors, entendu, mon cher vieux, à demain déjeuner, Adrien. Oh, le salaud! Oh, ce qui m'a fait peur! Eh bien non, j'irai pas déjeuner demain avec lui. Je veux plus le voir, jamais. Non, il m'a fait trop peur. Mais c'est drôle ça, comment on est tout de même. Ce pneumatique d'un autre qui me donne maintenant la certitude qu'elle viendra ce soir. Ah, oh, seulement elle est très en retard tout de même. Et ça c'est bête, oh c'est très bête. Mon Dieu que les femmes sont assommantes. Ah oui, elles sont assommantes. Ah, oh, c'est même inouï qu'on puisse adorer les femmes comme on les adore et les trouver assommantes à ce point. Être marié, oh ça doit être terrible. Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait bien faire avec une femme en dehors de l'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de différence entre un homme marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre un Chinois et un Portugais. Si quelqu'un me disait « tu seras marié un jour », je répondrais « non, mon général ». Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Pourvu qu'elle ne soit pas malade? Pourvu surtout, mon Dieu, qu'elle n'ait pas réfléchi. Car elles ne font que des bêtises quand elles réfléchissent. Oh là 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 là, ce serait une bêtise de ne pas venir. Elle le regretterait. Peut-être pas autant que moi. Non, n'est-ce pas? Ce qui est stupide, c'est l'heure qui passe. J'ai pas envie de passer toute ma soirée comme ça, comme un idiot dans l'obscurité. Non, c'est vrai, c'est charmant les femmes et l'amour. Mais enfin, il ne faut pas être esclave à ce point. Ah, tant pis, je vais lui téléphoner. Non, je n'en peux plus. Passy. Oh, que c'est bête. Je sais que ça finit par 02. Non, pas tout à fait. Passy 1433. Je préfère demander aux réclamations, ça ira plus vite. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, celles-là? Elles doivent jouer aux cartes, c'est pas possible. Allô? Ah, enfin, mademoiselle. Voilà un quart d'heure que je demande un numéro sans pouvoir l'obtenir. Oui, mademoiselle, je sais le numéro que je veux, figurez-vous, oui. Donnez-moi, s'il vous plaît, Passy 1433. Oui, mademoiselle, 33. L'âge du Christ. Non, pas 46. Allô? Allô? Non, pas encore. Où sont mes cigarettes? Je passe une heure ou deux par jour à chercher mes cigarettes. Ah, allô? Allô? Je suis sûr qu'elle n'a rien demandé, cette fille-là. Quelle patience il faut avoir. Elles aussi, d'ailleurs, les malheureuses, quel métier elles font. Être entourées de gens nerveux qu'on ne voit pas et qui vous parlent par chiffres. Allô? Allô? Comment? Maison quoi? Ah oui, monsieur, c'est ici. Oui, de la cerisette? Bien, monsieur. Un litre de cerisette, oui, monsieur, bien fraîche, oh, comme d'habitude, comptez bien là-dessus. Au revoir, monsieur. Je t'en ficherai, moi, de la cerisette. Allô, allô, mademoiselle, je vous demande Passy 1433 et vous me passez un type qui veut de la cerisette. Oui, mademoiselle, Passy 1433. Allô, c'est vous, chérie. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment rien? Mais savez-vous l'heure qu'il est? Oh, pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez qui arrive? Mais elle est toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Oh, écoutez, ma chérie adorée, Ah, ça y est, elle a réfléchi. Mais il ne faut pas réfléchir, mon amour, il ne faut pas réfléchir. Allô? Non, je croyais qu'on avait coupé. Non, mais n'écoutez pas, mademoiselle! Écoutez-moi bien. Non, n'écoutez pas, je vous prie, mademoiselle. Écoutez. Mais fichez-nous la paix, mademoiselle, à la fin, voyons. Allô, chérie. Écoutez, un mot qui me vient du cœur et qui, tout doucement, me monte aux lèvres, c'est... Allô? Allô? Elles ont coupé, les salopes. Allô? Allô? Ah, c'est vous, chérie, pardon. Non, mais tu sais... Tiens-toi bien. Et tant pis si je te fais rougir, écoute-moi. Sais-tu ce que c'est d'être désiré, tu entends? Follement, incroyablement désiré par un homme dont le... Allô? Ah, mais foutez-moi la paix avec votre cerisette, nom de Dieu! Non, monsieur, ce n'est pas ici! Allô? Ah, vous êtes là, chérie. Naturellement, on nous a coupé maintenant. Allô? Les réclamations... Ah, les salopes!
Vous vous accommodiez-vous facilement des idées de Guitry sur les femmes?
Jacqueline Delubac.
Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Parce que je trouve qu'il traitait tout de même un peu trop les femmes comme un petit objet ravissant, mais pas tellement intelligent. Un objet d'accompagnement, un objet qu'on avait plaisir à gâter, à couvrir de bijoux, de fourrures, d'hommages.
Allez, dites, allez, dites, allez.
Je t'aime, embrasse-moi.
Ah non, mais je vais le faire, je vais le faire, je le fais, je le mords.
Douce folie, rencontrée par hasard, si jolie, perdue seule dans ce bar, peu d'y croire. Yeah. et plus tu ne voulais plus. Comme des étrangers, nous avons marché dans la nuit. Douce folie, ma main a pris ta main. Si jolie, ton corps contre le mien, nous avons dansé, nous nous sommes aimés, le jour s'est levé, douce folie.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Continuons avec quelques bons mots aussi drôles que féroces. À propos de ses ennemis.
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage.
J'ai la prétention de ne pas plaire à tout le monde.
Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler.
Il y a des gens qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Sur les grands hommes.
Talleyrand disait de Chateaubriand. Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui.
Victor Hugo s'est contredit pour être sûr d'avoir tout dit.
Quoi de neuf ?
Molière. Sur la critique. La critique a sa raison d'être. Elle est la providence des illettrés, des vaniteux et des crétins. Elle les dispense de lire des livres en leur donnant pourtant le loisir d'en parler. Sur le cinéma.
Le cinéma est une lanterne magique. L'ironie et la grâce ne devraient pas en être exclues.
On ne court jamais de risque au cinéma. Au théâtre, c'est autre chose. Si vous voulez gagner, il faut risquer de perdre. Extrait de la pièce Quadrille. Et enfin, sur la mort.
Je suis étonné qu'un acteur ne se soit pas encore éteint en disant à mi-voix « rideau ».
Il faudrait n'être joué que par de grands acteurs, c'est-à-dire par des acteurs. Car somme toute, il n'y a pas de petits rôles. Et toutes les fois qu'un acteur parle, il est, pendant qu'il parle, le premier sur l'affiche. Et quand on s'adresse à lui, il est le second. Coquelin a dit un jour à un comédien, « Tu as un rôle intéressant dans la prochaine pièce, car à un moment, je te parle. » Vanité d'un très grand acteur ? Non. Coquelin disait vrai. Écouter est un art, et qui ne sait pas écouter ne saura jamais parler.
Extrait de la pièce « Je t'aime », écrite en 1920. Des serments éternels, des promesses infinies, des sanglots prolongés, de tout ce passé dans lequel je plongeais mes regards et mes mains, il ne restait plus que des petites mèches de cheveux, quelques fleurs fanées, des bijoux bon marché, des fins de lettres, des commencements de phrases, des points de suspension, des « oh » et des « ah ». Des cris, des baisers très longs, des baisers très courts volés à quelqu'un, des silences interminables, des murmures, des plaintes étouffées, d'autres cris, des silences différents, et puis des mots méchants, des mots cruels, des mots incompréhensibles. Des sobriquets, des petits mots, des mots moyens, et de grands mots, le mot toujours, le mot jamais. Et le mot adieu qui revient tout le temps. Et puis des vers, beaucoup de vers, des vers très longs mais très fragiles, qui se cassent en morceaux pour qu'on puisse facilement les mettre en musique, et les refrains de chansonnettes recommençaient dans ma mémoire, leur danse nostalgique. Et souriante.
Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même.
Et évoquons pour conclure l'unique roman écrit par Sacha Guitry, extrait des Mémoires d'un tricheur, publié en 1935.
Je suis né à Pingolas, petit village bien joli de Vaucluse, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va Vertillac en quittant Cavaillon. Nous étions 12 à table. Un tas de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, puisque tu as volé, tu seras privé de champignons.
En 1936, Sacha Guitry adapte au cinéma son unique récit sous le titre Le roman d'un tricheur, que François Truffaut considère comme un chef-d'œuvre. Sacha Guitry déclare à propos de son film « Il m'a toujours paru que le cinéma ressemblait plus au roman qu'au théâtre. Le théâtre, c'est du présent. Le cinéma, c'est du passé. Le personnage qui sera sur l'écran ne dira pas « Je suis malheureux aujourd'hui ». Non, il ne dira rien. Il aura l'air malheureux. Et la voix de celui qui raconte dira « J'étais malheureux ce jour-là ». Selon Truffaut, Guitry invente sans le savoir la technique de la voix off, dont s'inspirera plus tard Orson Welles pour un autre chef-d'œuvre, Citizen Kane. Voici donc un extrait de ce texte qui va compter dans l'histoire du cinéma. À travers les aventures d'un croupier de casino qui succombe à la passion du jeu, Sacha Guitry fait à nouveau scandale. Il fait l'apologie de la tricherie comme morale de survie. Dans le passage suivant, l'auteur semble répondre personnellement à ses ennemis qui lui reprochent son dandysme et son charisme agaçant. Être parisien, ce n'est ni une fonction, ni un état, ni un métier, et cependant, c'est tout cela. C'est unique et c'est inestimable. Et ce n'est d'ailleurs pas à vendre. On en est ou on n'en est pas. Et ceux qui n'en sont pas se demandent chaque matin ce qu'ils pourraient bien faire pour en être. Et ceux-là n'en seront jamais. Car être de Paris, ce n'est ni une question de volonté, ni une question de fortune. Ce n'est même pas une question de valeur. C'est un indéfinissable mélange d'esprit, de goût, de snobisme, de jobardise, de bravoure et d'immortalité. On ne doit pas savoir au juste pourquoi on en est, et l'on doit seulement savoir pourquoi les autres n'en sont pas. Il ne s'agit pas non plus d'être né à Paris, ni même en France. Il faut autre chose. Il faut être adopté par tous, sans que personne n'en ait parlé. Il y a dans ces élections quelque chose de mystérieux, une sorte d'entente secrète. On est naturalisé parisien, tout d'un coup, un beau soir. Oui, tous ces gens qui se haïssent, qui ne se quittent pas de l'année, qui échangent leurs femmes, leurs maîtresses et leurs amis, qui se regardent vieillir mais ne se voient pas changer, qui composent un véritable monde, je veux dire une véritable planète, avec ses mœurs, ses récréations, ses honneurs, son honneur et ses manies, oui, tous ces gens savent tomber d'accord en un instant quand il le faut. S'il me fallait donner quelques conseils à un homme nouvellement élu parisien, je lui dirais ceci. Tu es élu ? Parfait. Maintenant, attention. Ne fais pas de gaffe. Le jour où tu as été élu, quel chapeau avais-tu ? Celui-là ? Bien. Mets-le. Il est vieux, dis-tu. Ça ne fait rien. Mets-le. Tu avais cette cravate ridicule ? Tant pis, garde-la. Il ne faut plus jamais que tu en changes. Ceci est presque plus important que tout. Fais-toi refaire ce chapeau, fais-toi refaire cette cravate. Prends modèle sur toi-même. Et prends modèle aussi sur ceux qui en sont depuis 30 ans. Que ta silhouette soit toujours la même, car il faut qu'on puisse te reconnaître de loin. Ta tête se fera petit à petit, c'est l'affaire d'un an ou deux. Quand elle sera faite, on la fera. C'est-à-dire qu'on fera sa caricature, c'est essentiel. Ne grossis pas, ne maigris pas. N'embête surtout pas les dessinateurs, ils ne te feraient plus. Mais la mode, dis-tu. Là, je te mets tout de suite en garde. Lance-la si tu peux, mais ne la suis jamais. Tu ne dois pas être à la mode. Le vrai Parisien, c'est celui qui est en retard de 15 ans sur elle ou en avance de 15 jours. Tu aurais l'air d'un provincial si tu suivais la mode. Voilà pour la façade. Le reste est moins facile. Au sujet de ta vie privée, on doit savoir des choses de toi, assurément. Mais il n'est pas mauvais qu'elles soient imprécises. Il faut qu'on te croie marié si tu ne l'es pas et divorcé si tu es marié. Si tu as l'esprit, sois féroce, impitoyable. Un mot, c'est sacré. Tu dois le faire contre ta sœur, contre ta femme s'il le faut, pourvu que le mot soit drôle. On n'a pas le droit de garder pour soi un mot drôle. Il y a des mots mortels, tant pis. Les mots qui sont mortels font vivre du moins ceux qui les font. Être de Paris, cela nourrit son homme. Et tu en vivras. Je peux même t'assurer que tu en mourras. Ton chapeau sur la tête et ta cravate au cou. Mais foi de joueur, le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Pascal Thomas.
Moi, je crois qu'il y a chez Guitry, il y a plus de respect. Je crois qu'il y a plus de modestie que de vanité. Je crois qu'il n'y a aucune trace de misogynie. Il y a des réflexions amusantes. Et Guitry a été très encombré par son succès. Des anecdotes de sa vie privée. On a oublié. Aujourd'hui, on commence à parler de la création du style Guitry, des thèmes, etc. Mais pendant très longtemps, on a vu qu'un type au moins hyperbolique, ce que je ne crois pas, d'ailleurs, je pense que ce type était très modeste.
C'est quoi le style Guitry, en tant que cinéaste?
En tant que cinéaste, c'est la grande liberté.
Eh bien, c'est la fin de cette émission consacrée à ce génie, Sacha Guitry, en compagnie de Françoise Lépine. Merci Françoise.
Merci Guillaume.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia, avec Philippe Mercher à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem.